Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Sébastien Berlandis, qui publie « L'autre pays » chez Stock, dans la collection La Forêt. Encore des marches et d'autres rêveries, des boulevards sans ombre. Je marche comme si je cherchais quelque chose, comme si je voulais réentendre des souvenirs que ma mémoire a égarés. L'an dernier, Sébastien Berlandis, à peu près à la même époque, vous étiez venu parler d'un autre livre, Une dernière fois la nuit, publié dans la même collection que dirige Brigitte Giraud chez Stock, La Forêt. Je vous avais demandé si c'était le premier, et vous m'aviez répondu que c'était le premier publié. En fait, il y en avait un autre écrit, mais son moment n'était pas encore venu. Et cet autre livre, c'est celui qui paraît cette année, L'autre pays.
Oui, c'est vrai. Ouais. L'autre pays a une jolie histoire. C'est effectivement le premier texte que j'ai écrit en 2010-2011. Et le manuscrit ne ressemblait pas du tout au texte présent. Il était beaucoup plus long, l'écriture était vraiment différente. Beaucoup plus ampoulé, très référencé, avec énormément de citations italiennes que je ne prenais pas la peine de retraduire. Enfin, et puis il était très long, on perdait le fil vraiment. Et c'est un manuscrit que j'ai soumis à différentes maisons, dont Stock. Enfin, je l'ai donné à Brigitte Giraud, qui voulait le prendre, puis ne l'a pas pris. Puis elle était quand même assez enthousiaste. Elle me l'a fait réécrire plusieurs fois et ça n'allait pas. Donc c'est un texte que j'ai fini par abandonner après l'avoir réécrit, je ne sais pas, 4-5 fois, donc en 2011. Et à la suite de cela, j'ai continué à écrire. J'ai effectivement écrit Une dernière fois la nuit, donc mon deuxième livre, que Brigitte Giraud a pris tout de suite. Et j'ai laissé tomber... L'autre pays, vraiment. D'ailleurs, il n'avait pas ce titre au départ. Il avait des titres italiens, Frangente, qui veut dire le brisant, puis Paese, qui voulait dire pays. Je l'ai laissé vraiment dans mes cartons, enfin sur mes tables. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu un déclic à la rentrée 2013, en septembre 2013. J'avais écrit un autre texte, un troisième texte, qui j'espère sortira l'an prochain. Et... j'ai eu le désir de replonger dans ce premier manuscrit et j'ai trouvé comment lui donner une tension qu'il n'avait pas, parce que c'était un terme que Brigitte Giraud employait souvent. Le livre perdait en tension, perdait en intensité, on perdait le fil. Enfin, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait dire au départ. Et en fait, quand j'ai repris l'écriture de L'autre pays, j'ai enlevé, je ne sais pas, 30-40 pages. Ce qui est énorme pour moi, puisque c'est quasiment les deux tiers du livre. Et j'ai simplifié la langue, je l'ai fluidifié. Enfin, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle sonne comme elle sonne maintenant, enfin, comme mon écriture sonne à présent. Et ça a donné L'autre pays, que je lui ai soumis en septembre 2013, mais sans en attendre grand-chose, quoi. Je voulais juste qu'elle me dise qu'est-ce que tu penses des modifications par rapport à ce premier manuscrit d'il y a 3 ans. Et elle a été très enthousiaste et elle a choisi de le sortir pour la rentrée 2014, enfin pour avril 2014.
Donc l'intensité, c'est un travail qui a trait à la nécessité, c'est-à-dire qu'il faut enlever tout ce qui est inutile, tout ce qui ne paraît pas essentiel, et on arrive à produire cette densité, cette intensité dont elle vous parlait la première fois.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait, je pense, beaucoup de phrases qui ne servaient à rien. Enfin, j'ai le souvenir de, pour ce premier manuscrit, d'avoir voulu montrer que je savais écrire, enfin que je savais bien écrire, avec des très belles phrases, avec un style un peu ampoulé et un style qui finalement ne me correspondait pas, enfin, et qui ne correspondait pas effectivement à l'intensité de ce trajet qui est court. Voilà, oui, c'est vrai, ouais. C'est vraiment un travail sur la tension, la densité, l'intensité. Ouais, c'est un travail passionnant à faire, d'ailleurs.
Pour vous, bien écrire, ce n'est pas bien écrire.
Je n'ai pas envie qu'on sente que, comment dire, que l'auteur fait l'effort de bien écrire. Ouais. Parfois, il y a des phrases, enfin, quand on retravaille le texte avec les différents correcteurs de la maison d'édition, je me souviens qu'une des correctrices me dit que parfois, bon, cette phrase, elle est grammaticalement incorrecte. Et je lui réponds, oui, mais elle sonne bien. Donc j'aimerais qu'on la laisse ainsi. Et puis, bon, elle me dit, je suis d'accord avec toi, effectivement, elle sonne bien. Et voilà, j'essaie d'être soucieux de cela. J'ai envie que l'écriture sonne bien, surtout. C'est quelque chose que j'ai découvert. Je me suis aperçu... Enfin, j'écris à voix haute. J'écris sur des carnets. Une fois que le paragraphe, hein, que ce que j'ai écrit pendant l'heure ou pendant la demi-heure est terminé, je le lis à voix haute. Et si il n'a pas une bonne musicalité, s'il ne sonne pas bien, je le supprime. Ou alors j'enlève, ou j'ajoute quelque chose. Enfin...
L'écrivain est un inventeur de langue, ce qui englobe la grammaire, évidemment.
Oui. Oui, enfin... Mais vraiment, je n'ai pas l'impression de me soucier... Je pense que c'est bien écrit, enfin, c'est un texte qui est bien écrit, mais ce n'est pas ma préoccupation première, voilà. Enfin, la construction grammaticale. Je parle plutôt, ouais, en termes de rythme, d'intensité, d'agencement, enfin, de chapitres qui se répondent, enfin, plus que, ouais, en termes techniques. Enfin, ouais.
C'est une certaine cohérence que vous cherchez à atteindre.
Cohérence, je sais pas.
Faire tenir ensemble des éléments qui peuvent être épars.
Ouais, une fluidité, voilà. Ouais, cohérence, ouais. Fluidité, enfin, c'est... Peut-être que je préférerais employer ce terme parce que c'est aussi un terme qui revient souvent dans la bouche de certains, enfin, qui ont lu le premier et le deuxième. Et beaucoup me disent que j'ai... gagner en fluidité, que le style, la langue, l'écriture est beaucoup plus fluide. Ouais, ça coule mieux. Ça sonne mieux, ça coule mieux. Enfin, en tout cas, ça sonne différemment du premier. Et je crois que oui, l'écriture a gagné en fluidité. Je ne sais pas si je parlerai de cohérence. Ouais.
Alors, l'autre pays, on ne peut pas le cacher plus longtemps, c'est l'Italie. Mais votre livre ne ressemble en rien... un guide touristique. Même si tout est décrit avec une volonté de précision.
Oui, les lieux
ces sont... lieux que vous décrivez, ce sont en fait des lieux hantés. Et hantés principalement par des souvenirs partagés avec une jeune femme.
Oui. Oui, alors c'est effectivement encore l'Italie. Mais oui, vous avez raison, ce n'est pas l'Italie des guides touristiques, j'espère pas. C'est une Italie rêvée, c'est une Italie fantasmée. D'ailleurs, l'extrait que vous avez choisi de lire au début de l'émission, effectivement, souligne bien l'idée de rêverie, qu'il y a beaucoup de rêverie, des marches rêveuses. Et je vois vraiment le texte comme une traversée, une descente rêveuse du nord au sud de l'Italie. Une traversée fantasmée avec effectivement, enfin qui entremêle différentes routes. C'est encore un livre de route, un livre de déplacement. Alors le précédent se cantonnait au nord de l'Italie, et là c'est vraiment une descente du nord, enfin Turin, jusqu'au sud, les portes de la Calabre. Enfin, je n'y pénètre pas. Et ouais, l'idée de descente rêveuse me va bien. Et c'est, oui, voilà, c'est une descente qui entremêle, qui entrecroise différentes routes. Alors des routes familiales précédemment, puisque c'était au départ l'objet ou l'objectif du narrateur, donc de descendre dans le sud, vers l'espace natal, enfin prétendument natal, parce qu'en fait, je ne suis pas originaire de Calabre, contrairement à ce que mon grand-père pensait. Et ces routes familiales croisent des routes amoureuses. Mmh. Alors des routes amoureuses passées, effectivement, enfin c'est... Oui, le livre, enfin la descente est l'occasion de réminiscences amoureuses, de souvenirs amoureux passés, et de rencontres amoureuses présentes. Ouais. Mmh. Donc il y a ces deux, cet entremêlement de deux routes, ouais. De routes familiales et de routes amoureuses.
Et de temps aussi, il y a entremêlement de
oui,
temps.
Oui, entremêlement de temps, présent, passé, présent et passé. Ouais. Mmh.
Importance aussi du regard, pas seulement des souvenirs. Le narrateur observe comme il filme et photographie.
Ouais.
Et bon, on devine que la photographie est aussi l'une de vos préoccupations, puisque la photo qui tient lieu de bandeau est signée par vous.
Oui. Oui, la photographie, enfin l'image en général, tient une place importante dans ma vie, dans mon écriture aussi. Et. C'est intéressant que vous parliez à la fois de photographie de cinéma, parce que autant le premier, enfin, dans sa construction, vous vous souvenez, c'est une construction en court fragment, un narrateur qui expulse des souvenirs de manière très rapide et très vive. Et je trouvais que la construction du premier livre, Une dernière fois la nuit, ressemblait à une association de courts fragments photographiques, des courts flashs, des polaroïdes, je ne sais pas. Alors que celui-ci, peut-être de par la fluidité de la langue, ressemble plus à un lent travelling cinématographique. Et c'est quelque chose qu'on m'a fait remarquer. Pas l'idée de travelling cinématographique, mais la présence du cinéma... qui est plus importante dans celui-ci, dans l'autre pays, que dans le précédent. Et plusieurs personnes m'ont fait remarquer que les villes que je traverse sont des villes qui sont associées à des cinéastes importants. Enfin, par exemple, il y a Ferrare, qui est la ville natale d'Antonioni, Rimini, qui est la ville natale de Fellini, la région de la Basilicate, qui est la région qui précède la Calabre, a beaucoup été filmée par les frères Taviani. Le livre se termine à Rome, qui est la ville de Pasolini. Enfin, et ça, très honnêtement, je n'en avais pas conscience quand j'écrivais le texte, que le voyage que le narrateur faisait, le voyage que j'avais fait, croisait des villes hantées par la figure de grands cinéastes et de cinéastes que j'aime, particulièrement Pasolini et Antonioni, moins les deux autres, que je connais moins. Donc oui, effectivement, il y a cette idée de rêverie, de... quelque chose qui est de l'ordre du... Enfin, qui est hanté, ouais, des souvenirs hantés, des lieux hantés, qui existent vraiment. Enfin, vous parliez de précision de la description. Ouais, les lieux sont décrits à la fois avec minutie, mais je fais en sorte que cette précision soit débordée par le fantasme. Quoi. Ouais. Enfin, c'est ce qui fait peut-être qu'il y a littérature. Et pas simplement un compte-rendu journalistique.
À Turin, quel premier lieu, par exemple, c'est l'hôtel Vinzaglio ou le cinéma de la galerie Subalpina, où on joue un film de Dino Risi.
Oui, qui se passe pas à Turin d'ailleurs, je crois, hein, Le Fanfaron. C'est Rome, non?
Oui,
c'est Rome le 15 août.
C'est à Turin.
Oui, mais c'est à Turin que le narrateur voit ce film qui revient d'ailleurs, je crois, enfin, de manière plus vague dans le dernier chapitre, hein, le chapitre romain, où le narrateur n'a pas l'aisance de Vittoria Gassman dans les rues de Rome et il se perd et il n'est pas aussi habile à conduire sa voiture.
À Ferrare, c'est une chambre sur cour.
Oui. Ouais, le narrateur habite souvent des chambres sur cour, d'ailleurs.
Là, il pleut.
Oui.
C'est pas l'Italie de carte postale.
Non. Non, non, pourtant, c'est plein d'août. L'arrivée à Ferrare, effectivement, est une arrivée pluvieuse, noire, grise, enfin... extrêmement triste. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est une ville que le narrateur passe plusieurs jours dans Ferrare. Il ne sait pas trop pourquoi, enfin, pas trop ce qu'il cherche. Il s'ennuie. Il lit enfin, des pages de Bassani, d'ailleurs, que je cite, je crois. Enfin, je ne sais plus. Et le soleil revient, mais la tristesse ne s'en va pas. Et c'est une ville vraiment qui est. Que je trouve assez oppressante, enfin, qui est très belle, trop belle, enfermée dans ces pierres, enfin Renaissance, et on suffoque un peu, il n'y a pas d'air.
Au crépuscule, le narrateur filme des choses insignifiantes, des flaques d'eau, des bandes blanches, des passages piétons, une rue sombre et vide. Il ne filme pas longtemps, 1 minute 30 d'image.
Ouais, il n'y a pas encore de présence humaine, ouais. Il est assez seul au début
Mais
du texte.
Federica va venir.
Mais oui, effectivement, il y a une première rencontre. Ouais. Premier réveil, peut-être.
C'est elle qui s'approche du narrateur.
Oui, ouais, c'est elle qui s'approche du narrateur et qui lui demande ce qu'il fait là. Fin... Parce que c'est un moment particulier de l'été à Ferrare. Il y a une semaine qui est entièrement consacrée à un festival de musique de rue. Et le narrateur ne vient pas du tout pour ce festival-là. Enfin, il vient sans doute inconsciemment. Enfin, en tout cas, là, il y a une part autobiographique et nette. Voilà. La première fois que je suis allé à Ferrare, c'était en août 2007, enfin, quelques jours après la mort d'Antonioni. Et c'est mon cinéaste préféré. Enfin, donc j'étais parti en pèlerinage, quoi. Enfin, pèlerinage un peu cinéphile. Et je débarque dans cette ville. Alors d'abord... sous la pluie, et puis le soleil revient, et la joie des rues, enfin, le monde, la jeunesse, et je me sentais extrêmement perdu, complètement déconnecté de cette joie, de cette jeunesse, de cette vie incroyable. Et il y a effectivement une jeune femme qui m'aborde et qui me demande ce que je fais là, enfin, si je suis là pour le festival. Et je lui dis non, enfin, absolument pas. Non, je suis là pour autre chose, je suis là pour Antonioni, c'est ma réponse. Et ce qui est curieux, c'était une jeune femme qui avait mon âge, enfin, elle était un peu plus jeune. Je sais pas, 25-30 ans. Et elle m'a demandé de répéter, enfin, elle parlait pas italien, je parlais pas italien, ou très mal, je parlais pas très bien anglais, bon bref. Et elle ne savait pas qui était Antonioni. Donc je lui dis que c'est le cinéaste de sa ville et c'est un cinéaste important. Bon voilà, après la discussion est partie sur autre chose.
Ouais. Et de toute façon, elle partait en Dalmatie.
Oui, enfin dans le texte. Après, il y a le roman déborde, comment dire, la part simplement autobiographique. Effectivement, là, dans le roman, la jeune femme quitte la ville après la nuit d'amour. Et le narrateur n'arrive pas à quitter la ville, il ne sait pas pourquoi, alors que plus rien ne le rattache à cette ville, ni cette jeune femme rencontrée, ni le souvenir de...
D'une nuit d'amour
Oui, une nuit d'amour peut-être, qu'il veut Ouais, comme si tout est qu'elle perdure.
Alors il faut partir, il faut...
Il faut voir la mer, vite, enfin.
Et la destination, c'est Rimini.
Oui.
Le bruit des avenues.
Ouais, l'agitation, la jeunesse à nouveau, mais une jeunesse plus... plus, comment dire, plus débraillée, plus populaire. Et une jeunesse avec laquelle le narrateur est plus en phase. Il a l'amour de ce peuple en vacances. Enfin, je suis très touché par le peuple italien en vacances, en fait, beaucoup plus que par le peuple français en vacances. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, pourtant, j'ai fréquenté ces bourgades de mer, ces bords de mer dans le sud de la France. Il n'y a pas cette même ambiance, joie populaire que l'on peut voir par exemple à Rimini. Et effectivement, le narrateur commence à trouver sa place dans l'agitation de cette ville, parce qu'il est toujours question, dans ce deuxième texte, comme dans le premier, de trouver un espace dans lequel le narrateur puisse aspirer, vivre, aimer.
Il est toujours un peu seul.
Il est toujours un peu seul.
S'il est tourné vers l'extérieur et vers les autres.
Ouais, il est vraiment observateur, plus qu'acteur. Un observateur.
Il va s'approcher des Pouilles. Là, c'est la splendeur, mais qui rend dérisoire l'absence de la mer et les rayons de la canicule. Puis il va se retrouver à Vico. Et là, c'est une autre forme de foule. Un grouillement d'hommes et de femmes sur les larges places de Vico.
Ouais, mais ce n'est pas si, finalement... il manque la mer à Vico, puisque c'est une ville sur une colline haute. Mais je pense que c'est un peu... Enfin, il retrouve cette même agitation populaire qu'il a pu rencontrer déjà à Rimini. Enfin, il manque juste la mer. Mais... C'est pas si éloigné. Et vous parlez de splendeur, enfin ouais, la découverte des Pouilles est mêle à la fois, oui, l'idée de splendeur et une espèce de déception, parce que le narrateur avait le souvenir d'une côte plus peut-être plus dépouillée, moins construite, moins bétonnée, même si il y a 2-3 bourgades qui résistent à l'avancée du béton, mais il y a ce mélange, cet entremêlement d'extase, de splendeur et de déception malgré tout. Ouais. Donc il ne s'arrête pas, il continue, il s'enfonce encore dans le sud de l'Italie. De toute façon, les Pouilles ne sont pas l'objet du voyage, l'objet de la descente, puisqu'il faut aller plus bas, puisque il pense que ses origines se trouvent en Calabre, donc il faut encore descendre.
Les ports, les villages côtiers, avec un temps qui semble arrêté, là, en 1920.
Ouais. Il y a beaucoup de... Alors, beaucoup plus dans le sud que dans le nord d'Italie. Il y a beaucoup de villages, de stations balnéaires qui semblent effectivement arrêtés, ouais.
1920, c'est pas n'importe quelle date, c'est une date qui renvoie aux lettres de famille.
Oui. Ouais, la lettre, les lettres qui était adressée à une jeune fille qui avait 18-20 ans, qui a eu une aïeule du narrateur, la fille de son arrière-grand-père. Et c'est une figure qui traverse, mais vraiment. En creux, très en creux, l'ensemble du livre. Il y a des figures féminines présentes, les rencontres présentes. Il y en a en fait deux, une à Ferrare et une à Rome. Il y a le souvenir de la femme aimée, avec lequel le narrateur a déjà parcouru ces lieux. Et puis effectivement, il y a le souvenir de cette jeune femme qui a vécu dans les années 20, et qui, semble-t-il, souffrait des mêmes maux que le narrateur, quoi, des problèmes de respiration, qui est morte assez jeune. Et le narrateur est sans doute un peu fasciné par cette jeune, enfin cette jeune aïeule, quoi, qu'il retrouve à plusieurs reprises dans des images qu'il trouve dans une librairie à Rome, par exemple. Il a l'impression de voir à la fois la femme aimée, Giovannina, donc l'aïeule.
Il éprouve de la tendresse pour elle.
Ouais, une tendresse. Ouais, j'aurais dit là, une espèce de fascination. Un amour aussi, peut-être. Ouais.
Il y a San Pietro aussi, et la Pinède, que le narrateur traverse. Un peu plus tôt dans son parcours, il avait traversé la forêt des morts aussi.
Oui.
Il avait filmé la cime des arbres.
Il y a beaucoup de Pinède, ouais, dans ce texte. Il y en aura encore plus dans le suivant ou les suivants. Je suis assez fasciné par les forêts, par les forêts de pins en particulier. Et les forêts de pins traversées sont toujours la réminiscence de forêts. De forêts aimées, de forêts d'enfance, des forêts de pins qu'il a traversées avec cette femme qu'il a perdue. Et puis, ouais, des forêts d'enfance. Ouais. Bah, j'ai passé mes étés d'enfance dans le Var, dans la région des morts. Et je passais mon temps dans les pinèdes. Ouais. Je suis absolument fasciné par l'odeur des pins, l'ombre des pins, les pins qui tombent sur les plages, enfin voilà.
Les plages, quand vous les revoyez, c'est avec vos yeux d'enfant.
Ouais, souvent, ouais. Moi, j'ai un rapport très très fort à la mer, très fort à la plage, et parce que j'ai l'impression, je n'ai pas grandi au bord de l'eau, mais j'ai comme l'impression que mon enfance, alors même qu'elle s'est déroulée dans les terres, hein, je suis originaire du sud de la France, mais je n'ai jamais vécu au bord de l'eau. J'ai l'impression que mon enfance s'est construite sur la plage, en fait, au bord de l'eau. Donc à chaque fois que je vois une plage, surtout une plage méditerranéenne, moins les plages océaniques, enfin, je suis moins familier des plages océaniques, donc quelle que soit la plage méditerranéenne que je croise, j'ai l'impression de la voir avec des yeux d'enfant ou d'adolescent. Ouais. C'est vrai.
Il y a une mer dans laquelle vous sentez la nécessité de vous immerger, c'est la mer Ionienne.
Ah oui, je me souviens de ce passage, ouais, effectivement. C'est au moment où le narrateur quitte justement les bords de mer et qu'il a l'impression qu'il ne va plus...
C'est son dernier bain.
Ouais, c'est ça, qu'il ne va plus jamais voir la mer. Donc il y a une espèce de nécessité impérieuse de se baigner une dernière fois.
C'est à Tarente.
Ouais, ville incroyable, surprenante. Ouais.
Surtout la vieille ville.
Ouais. Ouais, c'est une ville qui est... bizarrement construite, parce que, enfin, je vais dire que les trois quarts de la ville ressemblent à une ville moderne classique, quoi. Ça ressemble à Lyon, enfin, avec des avenues modernes, des magasins modernes, etc. Et puis on traverse un pont et on arrive sur une presqu'île, en fait, et c'est la vieille ville, c'est le cœur de la vieille ville où la mer entre, en fait, frappe les rochers de cette presqu'île. Et la presqu'île, cette vieille ville de Tarente est vraiment complètement oubliée, désertée, entièrement noire, même la journée.
Les maisons sont à l'abandon.
Ouais, les maisons sont à l'abandon, plus qu'à l'abandon, elles sont toutes murées, fermées, murées, bétonnées. Je dirais presque cendrées. Enfin, c'est comme si, je sais pas, un nuage de cendres s'était abattu sur la vieille ville de Tarente qui a grisé l'ensemble des façades. C'est vraiment complètement saisissant. Il n'y a personne dans les rues, enfin personne, à part des bandes de ragazzi qui tournent et tournent en scooter, désœuvrés, qui jouent à se faire peur, à nous faire peur sans doute. Et ouais, on croise peu de monde. Enfin, c'est vraiment intriguant, complètement fascinant. Enfin, une ville que... Enfin, je me demande comment personne n'a eu l'idée de filmer cet espace-là, quoi. Qui est... Ça fait beaucoup penser, je sais pas, à certains films néo-réalistes de Rossellini, quoi. Enfin, on a l'impression qu'on est 60 ans en arrière, que la ville a été pas bombardée, mais ouais, cendrée, quoi. Engloutie par la cendre.
C'est par les bâtiments de Cinecittà que le narrateur entre dans Rome. Et là,
mais le cinéma encore.
Problème, c'est que ils n'ont pas connu Rome ensemble.
Oui, c'est vrai.
Donc seule l'imagination est au pouvoir.
Ouais.
Donc et là, la rêverie.
Ouais, la rêverie de nouveau. La rêverie qui est de plus en plus présente. Oui, effectivement. Enfin, le narrateur entre dans une ville. Qu'il connaît déjà, mais qu'il n'a pas connu avec, avec la femme à qui il s'adresse. Et il l'imagine, ouais, il marche beaucoup, enfin, il fait très chaud. Et ouais, c'est sans doute propice à l'hallucination, de nouveau à la dérive rêveuse, au fantasme.
Mais le fantasme
qui prend quand même, heureusement. Qui prend corps ou qui prend cher.
Gianna,
ouais.
Mais encore, pas d'avenir avec Gianna.
En partance, ouais. Alors, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est sans doute plus romanesque ou d'imaginer ces femmes en partance. Hein. C'est peut-être aussi une manière d'ouvrir sur un livre futur possible, puisque elle part pour l'Amérique et... il y a dans un autre texte, un troisième texte, des routes américaines. Alors, je ne l'ai pas fait sciemment, mais après coup, je me dis que peut-être que... Voilà pourquoi le livre se termine ainsi, quoi, sur cette jeune femme qui part pour une autre langue, pour un autre espace, d'autres routes, moins italienne et plus américaine.
L'autre pays de Sébastien Barlandis est publié chez Stock dans la collection La Forêt. Du jour au lendemain, Éric Boisset, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.